I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vulgaire. Cher commu de mon cœur, bonjour. Je vous écris de Paris où je suis confinée, où le temps est gris et où les arbres ont des couleurs d'automne. Le Covid gronde, le peuple aussi. Tout le monde l'a. Clément, il l'a. Laura, elle l'a, elle l'a, elle l'a. Oui, je sais, quand mes vannes sont excellentes comme ça, dès le début, ça annonce un podcast de grande qualité, je le sais. Quand mes vannes sont bonnes comme ça, j'ai envie de les ponctuer par un « drop the mask » et partir. Mais non, je reste, parce que c'est 135 euros déjà. Et parce que nous allons parler d'un sujet très important et médical, le seul médicament que les médecins conseillent en cas de Covid, la chloroquine. Non, je rigole, on va parler du paracétamol. Et je vous cache pas que je suis trop contente parce que je vais pouvoir utiliser des mots qui donnent instantanément l'air intelligent. Posologie, antipyrétique ou encore pipi. Le paracétamol, c'est comme mon ex, mais en inversé. Les deux trouvent toujours exactement là où ça fait mal. La différence, c'est que l'un soulage cette douleur et l'autre appuie dessus très fort en disant avec un air désolé, je comprends pas pourquoi je suis pas tombée amoureuse de toi. T'es vraiment super, bonne continuation à toi. Bref. J'aurais pu demander à mon ex comment elle fait pour trouver pile poil l'endroit qui fait mal, mais j'ai préféré regarder sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Du paracétamol, donc. Le paracétamol est le médicament le plus consommé en France et dans le monde. Il sert à soulager pas mal de douleurs à égalité avec pas mal des mots que prononce Christiane Taubira. Il est autorisé pour des personnes enceintes, pour des bébés, pour des personnes pas enceintes et pour des personnes pas bébés. On le consomme sous les noms de paracétamol, mais surtout en France de Doliprane, Dafalgan et Efferalgan. Moi je trouve qu'on dirait des personnages de dessins animés.
Oh non, Doliprane a trébuché dans le buisson, il doit souffrir.
Ne t'inquiète pas Dafalgan, je suis là pour vous protéger.
Oh, merci oncle Efferalgan.
C'est un antalgique, ça veut dire qu'il est antidouleur, et un antipyrétique, donc contre la fièvre. En revanche, il n'est pas anti-inflammatoire et il ne guérit pas. Il n'est pas joli, il n'est pas moche non plus, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas...
maladroite.
Voilà, en gros, le paracétamol n'est pas une chanson de Louise Attaque. L'équivalent, d'ailleurs, du paracétamol, ce serait plus une chanson de Ella Fitzgerald. Vous savez, une chanson qui fait toujours du bien, quoi qu'il arrive.
Can't buy me love, can't buy me love. Can't buy me love.
Souvent d'ailleurs, j'ai lu qu'en cas de fièvre, il fallait privilégier le paracétamol à l'aspirine car il y a moins d'effets indésirables. Si vous ne savez pas de quels effets indésirables je parle, sachez que moi non plus. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est l'aspirine, c'est ça.
Aspirine, ça c'est inattendu, ça c'est bien. Aspirine, épouse d'un aspirant de marine. Généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un cachet d'aspirine.
Merci Muriel. Et alors comment fait le paracétamol pour savoir exactement où il doit aller pour nous soulager? Moi, comme j'ai grandi en regardant Il était une fois la vie, je pensais que les principes actifs du médicament, en arrivant dans le corps, il passait un petit coup de toki à un monsieur avec une barbe blanche qui lui disait « Envoie ton armée, on va lui trouver un nom, attends, comment on pourrait l'appeler Les paras Van. Envoie ton armée au niveau du bas-ventre, elle a ses gleurées, elle a mal, et le médicament, dans son legging qui ressemble à celui des schtroumpfs, il y allait direct pour se battre contre notre douleur. Mauvaise nouvelle, a priori et selon mes recherches, personne n'a de talkie-walkie dans notre corps. La déception. Personne ne dit
« Roger, à vous !»
Et surtout, le médicament, il ne va pas que là où on a mal. On met dans notre bouche, on l'avale, titre, il fait le petit trajet normal de la digestion et il arrive dans le foie. Là, il passe dans le sang et il fait du coup tout le tour de notre corps par le sang. Et quand on a besoin de lui, hop, il fait ce qu'il a à faire. Le paracétamol non utilisé continue son petit tour dans le corps jusqu'à être utilisé entièrement ou être totalement évacué par le foie, bile, rate, la routine. Maintenant, si vous suivez Vulgaire, vous avez les bases, normalement, tout est dedans. Si vous savez pas ce que c'est, allez écouter les autres épisodes. En tout cas, c'est pour ça qu'on doit en reprendre, parce qu'on n'en a plus dans le corps et qu'on recommence à avoir mal. Et alors, je pensais aussi que le paracétamol, c'était inoffensif, rapport au fait que ça nous aide à nous sentir mieux. Mais figurez-vous qu'en fait, le paracétamol, c'est exactement comme Anakin Skywalker. Il peut retourner sa veste et tomber du côté obscur de la force, comme ça. Le paracétamol devient dangereux à partir de 2 fois la dose recommandée, qui est de 3 grammes pour 24 heures. Au-delà de 50 kg, on peut prendre 1 gramme par prise max toutes les 4 à 6 heures. Et si jamais on augmente la dose, il ne faut jamais, au grand jamais, prendre plus de 4 grammes pour 24 heures. Car là, ça devient toxique. Officiellement, la dose toxique, c'est 10 grammes. Mais quand je vous dis dose toxique, c'est pas genre « Ouïouïouï, vous allez être barbouillé, oulala, ça va pas être très très agréable pendant un tout petit peu de temps. » Enfin si, vous allez être barbouillé, mais ça peut être très 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 dangereux. Dark Vador, il rigole pas. Je vous l'ai dit, c'est le foie qui évacue le paracétamol de notre corps. Mais si on lui en donne trop, le foie, il va être débordé et très vite, il va lâcher. En fait, le foie, c'est un peu un lycéen américain geek qui organise une soirée cigare et fromage avec ses 4 amis. Ils ont 17 ans, ils font des trucs de vieux, on les juge pas. Et les 10 grammes de paracétamol qu'on intègre, c'est l'équivalent de tout le lycée qui débarque avec des machines à bière et du matériel digne d'un festival de musique qui pète tout, qui vomit partout, qui baise dans la chambre de tes parents, qui casse le vase de sa mamie et en gros, qui ne respecte rien. D'ailleurs, excusez-moi, s'il y a des Américains qui nous écoutent là, par nous, je veux dire moi et mon ego, est-ce que vous pouvez me dire si ça existe vraiment les fêtes comme ça? Genre, où d'un coup t'as tout un lycée qui déboule dans une maison. Enfin, ils ont déjà vu des films, les parents, ils savent qu'il faut pas qu'ils partent en week-end. Je sais pas, ça m'intrigue. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut faire attention, même si on a, a priori, aucun souci de santé. Pour ne pas submerger notre foie et qu'il ne puisse plus accomplir sa fonction vitale. Pour les enfants, les personnes âgées, alcooliques ou malades du foie, il faut être encore plus vigilant et vérifier notamment si les autres médicaments qu'on prend n'en contiennent pas. Il faut 2 jours pour détruire un foie, et ça peut entraîner la mort. 2 jours, c'est quand même très rapide, hein. Voilà, donc je sens bien que c'est pas la grosse déconne, hein. J'ai un peu pété l'ambiance avec mes histoires de « Attention, c'est toxique, on peut peut-être mourir, je comprends. » Alors je vous rassure quand même, le paracétamol, à la bonne dose, c'est vraiment génial et très conseillé. Croyez-moi, j'ai quand même fait un Doug art du spectacle à Rennes 2, donc... Bien quelqu'un qu'on doit croire, c'est moi. Après, si vous voulez que je vous explique vraiment l'action concrète du paracétamol, ça va être compliqué parce que figurez-vous qu'on n'a pas encore bien compris comment on fait. Et quand je dis « on », je parle bien sûr de moi et de mes collègues de la licence 3 d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, bien sûr, mais aussi des autres scientifiques que j'appellerai ici les « vrais scientifiques ». Une des théories serait que le paracétamol empêcherait la COX-3 cérébrale, je sais pas ce que c'est mais je fais comme si, d'être en contact et d'interagir avec l'acide arachidonique. Je sais pas ce que c'est non plus. Parce que mélanger, ces deux trucs créent de la prostaglandine. Ça par contre, je sais, c'est une substance qui rend les terminaisons nerveuses très sensibles. En gros, la prostaglandine, c'est ça qui crée douleur et fièvre. Donc il semblerait que le paracétamol s'interpose entre la COX-3 cérébrale. Oui, moi aussi je pense à Courtney Cox à chaque fois que je le dis, hein. Friends, Cougar Town, ses Insta, je l'adore. Courtney, si tu nous écoutes, je pense pas, mais au cas où, je te kiffe. Bref, le paracétamol s'interpose entre la COX-3 cérébrale et l'acide arachido-machin, comme ça, hop, ils fricotent pas ensemble et donc ils ne créent pas la prostaglandine, donc la douleur et la fièvre. Si j'ai bien compris, les autres théories, c'est la transmission sérotoninergique ou la potentialisation des endocannabinoïdes. Mais bon, ça c'est clair, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense que tout le monde connaît.
I know!
Et là vous allez me dire, mais Marine, mais comment a été découvert le paracétamol? D'ailleurs, tiens, dites-le. Non mais dites-le, soyez pas timide. Vous êtes tout seul, hein, c'est un confinement, donc vraiment personne vous... Voilà. Eh bien merci. Merci de l'avoir dit et merci de poser cette question. Ben en fait c'est un coup de bol et c'est un peu une success story pour le paracétamol, ça a pas toujours été facile mais il a cru en lui et il a trouvé le succès. Ça commence en 1806, il y a 2 mecs, Arnold Kahn et Paul Epp, ils bossent sur un truc qui s'appelle la naphtalène. Ils en avaient plus, alors ils en ont commandé et la pharmacie elle s'est plantée, elle a commandé de l'acétanilide. Et eux ils font pas gaffe au début, ils commencent à bosser dessus et ils se rendent compte que ce truc a des propriétés antipyrétiques, contre la fièvre donc. Et ça, cette découverte, ça s'appelle une découverte par serpendipité. Qui est quand même un mot trop cool pour dire « J'ai fait 1000 ans d'études, mais c'est grâce à un gros hasard que j'ai trouvé un truc. » Donc c'est cool, hein, mais c'est quand même bien les boules. Mais c'est cool. Mais j'ai les boules. Mais c'est cool. J'ai les boules. En même temps, moi, ça m'arrive jamais, par exemple, la serpendipité. Je veux dire, moi, la pharmacienne, si elle se plante en me donnant un médicament, bon bah je me dis « Merde !» Et c'est tout, j'invente pas un autre médoc. Et eux, si. Et donc ils l'ont commercialisé sous le nom de « antifébrine ». 1888, donc beaucoup plus d'années plus tard, genre 70 ans et des patates, une usine de colorants réalise que dans ses déchets, il y a une molécule qui est le paranitrophénol, dont les propriétés ressemblent à celles de l'acétanilide, le truc que les deux gars ont trouvé par hasard juste avant. Oscar Hinsberg bosse dessus et mélange ça au projet découvert par hasard, et ça devient de l'acétophénitidine. Ça devient de l'acénophéniditine. Voilà, j'ai contente d'avoir réussi. Ça aussi, c'est contre la fièvre et c'est commercialisé sous le nom de phénacétine. Qui est un peu plus simple, hein. Oui, mais il y a quand même encore plus simple. Alors après, lui, il a plus de puissance et moins d'effets indésirables que la précédente version. Donc ça, c'est cool. Et franchement, moi, j'arrête pas de réfléchir, mais je trouve ça dingue. Et ça, ça m'arrive jamais, par exemple. Moi, quand j'ai des trucs dans ma poubelle, je les fais pas analyser pour regarder si ça fait pas des nouvelles molécules. Je me dis, merde! Et c'est tout. J'invente pas un autre médoc. Ça fait 2 fois dans ma vie que j'invente pas un autre médoc. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Bon, en tout cas, on vend la phénacétine. 1 an plus tard, on réalise que les gens qui en prennent ont dans leurs urines de l'acétaminophène. Et l'acétaminophène, c'est Bruce Willis. Mais non, c'est le paracétamol. Bruce Willis n'est pas une molécule. Je suis désolée de vous l'apprendre. Et en tout cas, un scientifique qui s'appelle Karl Korner, il étudie ça et il découvre que le paracétamol qui est dans les urines, qu'il a analysé, a des propriétés contre les douleurs et la fièvre. Mais il est écarté et les gens continuent de vendre la phénacétine. J'ai pas exactement eu les informations de pourquoi il est écarté, mais en même temps, je comprends, parce que moi, un gars me dit « J'ai analysé plein de pipi et vraiment, ce qui en ressort, c'est des doliprane. Hein. » J'avoue que je le crois pas non plus. Je vais lui dire « Oui, bien sûr, oui, le pipi est un antidouleur, voilà. » Et ben super. Et pardon, hein, mais si le pipi est un antidouleur, pourquoi on a mal pendant les cystites Ah bah attends, je suis pas que jolie, hein, ça tourne là-dedans, j'ai quand même fait le conservatoire de Rennes. Hein, non, et arrête de jouer avec le pipi des gens, Stéphane, c'est n'importe quoi. Et je pense que galvanisé par ça, j'aurais continué. Hein, non mais ça tient pas la théorie du pipi qui soigne. Je veux dire, un pipi peut soulager, c'est vrai. Genre quand t'as attendu très longtemps qu'il y ait une station essence, bon bah là c'est vrai que ça soulage, je te dis pas, c'est vrai, ça marche. Mais sinon, t'as aucune douleur qui ne craint le pipi. La douleur, elle se dit pas, je suis une douleur insupportable, vous ne mourrez jamais. Quoi? Du pipi? Oh non, non, ne m'aspergez pas de pipi, c'est ma kryptonite. C'est ma kryptonite. Oh, je meurs et je sens la ruelle un samedi soir. Oh, c'est horrible. Oh, dites à ma mère que le pipi a été plus fort que moi. C'est une mort très longue. Oh. Ça, c'était une mort à la Marion Cotillard.
Ne caresse pas ma belette, elle a la rage.
Non, ça marche pas. On n'est pas des piqûres de méduses, on n'a pas peur du pipi. Bref. Bon, après, ils réalisent que le deuxième truc qui a été inventé est nocif pour les reins, ils arrêtent d'en vendre, et que l'antifébrine, le premier truc qui a été commercialisé, a des effets indésirables au niveau sanguin. Donc pouf, c'est retiré aussi du marché. Et comme les deux molécules sont proches du paracétamol, on en conclut que le paracétamol, c'est pas bien non plus, et donc on n'en vend pas. Cut ! On arrive en 1948. Bernard Brody et Julius Axelrod, meilleur nom, reviennent un petit peu sur cette histoire de pipi. Ils disent, tiens, le pipi, peut-être un truc encore à faire. Ils réalisent donc que quand on prend de l'acétanilide, le truc trouvé par hasard au début, le corps fabrique du paracétamol qui est un antidouleur, mais l'acétanilide, c'est nocif. Donc ils se disent, eh ben on va filer directement du paracétamol. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les NSYNC. Ensemble, c'est de la merde, alors que si on extrait Justin Timberlake, tout seul, c'est de la balle. I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. J'adore cet album. Eh bien. Et c'est notamment très cool cette histoire parce que le paracétamol et Justin Timberlake ne présentent pas les mêmes contre-indications que l'aspirine, ils en ont beaucoup moins. Et je vous rappelle les contre-indications de l'aspirine, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas regardé. Après, bah, le paracétamol s'est vendu et puis c'est un gros succès, hein, la vente est libre en pharmacie, voilà, dans les gens que je connais, tout le monde en a déjà pris. Et alors juste pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai regardé sur Wikipédia quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, et dans le Wikipédia, ils disent qu'aux États-Unis, dans les années 80, il y a eu une vague de 7 meurtres. En gros, les gens prenaient du Tylenol, qui est une marque de paracétamol là-bas, et ensuite ils mouraient. Car il y avait dans certaines gélules du cyanure qui avait été ajouté, genre horrible. Notamment, il y a une histoire qui est terrible, c'est qu'il y a une ado qui avait mal à la tête, elle a pris du Tylenol pour se calmer. Bon bah là du coup, comme il y avait du cyanure dans la gélule, elle est morte. Du coup, bon bah comme elle est morte, donc les satans sont venus chez elle pour soutenir sa famille. Du coup, ils ont pleuré et ça leur a donné mal à la tête. Du coup, ils ont pris des médicaments et du coup, ils sont morts aussi. Voilà, c'est une histoire horrible. Vraiment, je le raconte un peu comme une histoire drôle, mais il y avait rien. Mais vraiment, il y avait pas. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, un mec a été dans les pharmacies et il rajoutait dans les boîtes des gélules de paracétamol auxquelles il avait ajouté du cyanure. Donc en plus, c'est un meurtre, tu tues des gens mais tu sais vraiment pas qui c'est quoi. Ces meurtres-là, ils ont totalement changé la sécurité des boîtes de médicaments qui désormais sont vraiment hermétiques. Le meurtrier n'a jamais vraiment été déclaré coupable, mais un homme s'est dénoncé puis a retiré ses dires. Faute de preuves, et du coup, il n'a pas été inculpé. Mais franchement, moi, meurtre d'Oliprane, je trouve que c'est un titre hyper alléchant. J'ai envie de voir cet épisode de l'inspecteur Barnaby sur François. Voilà, je le dis, j'ai envie. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était le paracétamol, mais en vulgaire. D'Oliprane, Dafalgan, Efferalgan, paracétamol, paracétamol. PS, dans le prochain épisode, on parlera de la langue des signes française. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast Attendre d'attendre un enfant, c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force détail, comme si vous étiez mes meilleurs poteaux. Je m'appelle Sophie Rich et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Et oh, on n'est pas des bêtes, ok? Attendre d'attendre un enfant, un nouvel épisode tous les lundis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!